Résignons-nous.
Carte blanche.
C'est eux qui employaient la menace du gros bâton.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Stéphane, bonjour.
Salut Philippe Vincent, bon début de semaine.
Oui, allô. Alors, tu veux commencer en parlant de la nouvelle de l'heure?
C'était la nouvelle de l'heure en fin de semaine. Ça avait coulé beaucoup d'encre. Les Américains ont plus de facilité à faire baisser les aéronefs chinois que l'inflation. La balloune a été pétée, c'est le cas de le dire. Fin de la montgolfière chinoise, de l'aéronef, de l'infernal appareil espion. Et rapidement, je me disais que ça nous force à nous poser quelques questions. Première, peut-être. Pourquoi les Chinois auraient-ils eu besoin d'un système aussi boboche pour espionner les Américains? L'histoire va sans doute nous le dire quand les plongeurs de la marine américaine auront repêché les restes au cours des prochains jours, parce qu'ils ont fait en sorte que ça soit fait au-dessus d'un plan d'eau qui n'était pas très profond.
Écoute, au moment où on se parle, là, c'est assez comique, le CNN est sur un bateau, sur ce plan d'eau-là, en Caroline du Sud, en train d'essayer de regarder la garde côtière ramasser les débris. Là. La télé américaine me fascine.
C'est clair que c'est très, très, très bon pour les codes d'écoute, très probablement. En tout cas, depuis une semaine, c'est le téléroman qu'on veut suivre en direct. Il y avait clairement une violation de l'espace aérien des Américains, mais la sécurité nationale était-elle menacée? Est-ce que l'opération avait plutôt samedi une valeur symbolique? Ce qui nous amène à la deuxième question, peut-être la plus importante. Pourquoi en faire état aujourd'hui de ces survols du territoire, reconnaître la présence du ballon dans le ciel, alors qu'apparemment, ce n'est pas le premier dirigeable qui dérive au-dessus du continent? Et donc, pourquoi le fameux son et lumière samedi à la Top Gun, avec ce qui avait précédé, l'espèce de mise en garde faite par le président Biden? On s'en occupe, c'est la version 2023 du Go Ahead, Make My Day de Dirty Harry, parce que c'était un peu ça. We'll take care of it. Alors, clairement, les Américains, je pense, veulent nous dire quelque chose, veulent envoyer un message de résolution, peut-être viril, si je cite ici Dirty Harry, c'est pas un hasard, un message de résolution face aux Chinois qui avaient commencé de leur côté à lâcher du lest et ouvert la porte à une espèce de baisse de la rhétorique, donc pour que ça soit moins belliqueux entre les Américains et eux. C'est à Davos, je dirais, l'opération Charme, si tant est que les Chinois sont jamais dans le mode Charme. Le vice-président avait tendu la main et dit espérer de meilleures relations avec l'Ouest. Puis il faut entendre ici beaucoup Washington. Puis le contexte est intéressant. Le secrétaire américain, Anthony Blinken, partait pour Beijing rencontrer nul autre que le président Xi Jinping, une première en plusieurs années. Et précisément, c'est à ce moment-là que le ballon espion dérive comme un cheveu sur la soupe froide. Alors, pourquoi les Américains, s'il est vrai que c'est pas le premier ballon espion à survoler, n'ont-ils pas fait à ce moment-là le dos rond et maintenu la visite importante du secrétaire d'État? Sinon, qu'il y avait peut-être une volonté de sabotage qui serait, peut-on le présumer, politiquement payant pour l'administration américaine. Puis c'est une des choses que les démocrates reprochaient au président Trump, sa rhétorique, tu t'en souviens certainement, à l'endroit de Beijing. C'était lui qui répétait inlassablement qu'on était les victimes du virus chinois. Il parlait pas de COVID. Et c'est lui qui avait, en termes de bataille commerciale, commencé à hausser le ton, à imposer des tarifs. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'administration Biden, de façon aussi ostentatoire, de façon aussi marquée, décide de saboter littéralement une rencontre au sommet à Beijing? Ça faisait des années qu'un secrétaire d'État n'était pas allé dans la capitale chinoise. Rencontre avec le président, alors que les Chinois disent vouloir un peu pacifier le ton. C'est très intéressant.
Je veux revenir sur ton entrevue de Joël Lightburn. Écoutons un petit extrait de ce qu'il t'a dit au Monde à l'envers.
Vous avez beaucoup voyagé.
Oups. On n'a pas le bon extrait, mais c'est pas grave.
Elle n'est pas fausse, mais disons que j'ai pas encore eu la révélation comme Saint-Paul sur le chemin de Damas. Je suis encore en train de...
C'est une affaire religieuse pour vous?
Non, quand même pas. Mais ça demande une bonne réflexion, parce qu'aller en politique pour être quelqu'un, ça vaut rien. Il faut y aller pour faire quelque chose. En ce moment, je fais juste penser à qu'est-ce que je fais, est-ce que ça en vaut la peine.
Qu'est-ce que tu en as pensé, Stéphane?
D'abord, il faut comprendre que quand on a invité M. Lightbound, c'était aussi un peu pour marquer le premier anniversaire des manifestations des camionneurs à Ottawa, parce que tu t'en souviens, c'est le seul député libéral qui s'était mis en travers du chemin du premier ministre en disant est-ce qu'on a vraiment besoin d'adopter éventuellement une loi sur les mesures d'urgence. C'était lui qui avait dit aussi que, je vais revenir à l'expression consacrée ce matin, que la rhétorique le premier ministre était divisive entre les vaccinés et les non-vaccinés. C'est aussi quelqu'un qui, sur le serment d'allégeance à la couronne, avait appuyé une motion du Bloc québécois, qui, cette semaine, dans l'affaire El Gawadi, avait manifesté qu'il y avait un problème, effectivement, dans certaines des déclarations qu'elle avait faites. Donc, je ne dirais pas un empêcheur de tourner en rond, parce que je ne pense pas que M. Lightbound fasse exprès, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas faire taire sa conscience. C'est quelqu'un qui estime que d'être député et de respecter, quand il le faut, la discipline de parti, n'est pas un obstacle à avoir aussi une liberté de conscience. Et il l'a exprimé. Alors, c'est pour toutes ces raisons, moi, que je l'avais invité. Je trouvais qu'il était intéressant. On dit souvent que des députés, ça ne sert pas à grand-chose. Or, je pense qu'il a fait la démonstration plus d'une fois qu'il pouvait, en tout cas, nous inviter, lui, à réfléchir. On sait, tu m'en as parlé d'ailleurs vendredi matin, qu'il est un potentiel, je dis bien potentiel, candidat à la direction du Parti libéral du Québec. Ça avait déjà été dit. J'avais certainement pas fermé la porte à en parler, mais c'était pas là-dessus que devait essentiellement porter l'entrevue. Comme il l'a dit, il n'y a pas eu encore son moment de grâce, d'illumination. Il n'a pas croisé l'esprit divin. Je crois clairement qu'il a réfléchi à cette idée de prendre la direction du parti ou du moins d'être candidat. Mais clairement, en fin de semaine, parce que j'ai vu que ça avait beaucoup tourné, le fait qu'il n'ait pas catégoriquement fermé la porte a fait spéculer beaucoup de gens. Je pense que la vérité, en fait, en politique et en communication, en général, tout est binaire, c'est noir ou c'est blanc. La vérité, c'est... Je pense pas...
Ben, la porte est ouverte, là.
Tout à fait, tout à fait. Je pense pas qu'il soit super enthousiaste. Il mesure... Écoute, c'est un jeune homme de 35 ans. J'ai posé la question, est-ce que vous êtes ambitieux? Parce que je pense qu'il faut l'être pour les bonnes raisons quand on veut faire ça. Des fois aussi pour les mauvaises, parce que ça nous démange d'être le boss. Je pense pas que c'est son cas. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est ce qu'il me disait un peu avant l'émission, parce qu'on en a parlé. On s'est croisé quand il est arrivé. C'est 10, 12 ans d'investissement dans l'opposition d'abord, dans l'espoir ensuite, si t'es choisi, d'être élu, puis ensuite faire quelque chose avec le pouvoir. Puis c'est une des questions, quant à moi, importantes et à laquelle il a en partie répondu de façon assez cryptique, qu'il voyait une espèce de combinaison des programmes politiques du Parti conservateur et des solidaires. Puis, à la question des vaches sacrées, parce que ça l'obsède beaucoup, ces vaches sacrées qui nous animent au Québec, et je lui citais une déclaration qu'il avait faite, il faut des fois en tuer de ces vaches sacrées pour se faire un maudit bon steak. Je pense qu'une des vaches sacrées qui l'intéresse, c'est la privatisation, c'est-à-dire ouvrir la porte à la privatisation pour livrer certains services, peut-être éventuellement en santé aussi, de ce côté-là, donc probablement davantage conservateur, et de l'autre, solidaire, parce que je crois que les raisons fondamentales qui l'ont amené à faire de la politique, c'est la justice sociale, une plus grande justice sociale. Et c'est quelqu'un qui, je suis obligé de lire entre les lignes, pense peut-être qu'en matière de santé et de livraison de services, et justement de justice sociale, l'État a atteint ses limites. C'est-à-dire que la capacité des organisations publiques a peut-être atteint ses limites et qu'il faut penser à de nouveaux modèles. Une fois que j'ai dit tout ça, est-ce que ça en fera un candidat? J'en ai pas la moindre idée.
Mais il y avait quelque chose de rafraîchissant quand même dans son entrevue.
Alors, moi, j'enlève le quand même. J'ai terminé, c'est pas mon habitude, en disant « wow », parce qu'il est sur tous les fronts quelqu'un qui ne souffre pas de la langue de bois. C'est quelqu'un qui est futé, qui est sensible, et c'est pas de la sensiblerie ou c'est pas de la sensibilité de vitrine. C'est pas quelqu'un qui fait semblant. Je l'ai vu après, parce qu'il est resté après le show, puis je ne rentrerai pas dans les détails qui relèvent de la vie privée de mon panel et de mes invités, mais se sont retrouvés dans le Green Room, Guy Nantel et M. Lightbound, qui ont longtemps, je suis parti moi à 10h, ils conversaient encore avec l'équipe. Clairement, c'est deux personnes qui ne logent pas à la même antenne politiquement. Ce n'est pas un souverainiste, M. Lightbound, loin s'en faut. Et j'ai vu d'abord son écoute extrêmement attentive. Il y avait un show en dehors du show. L'histoire n'est pas écrite, mais clairement une candidature si j'étais un libéral au Québec qui m'intéresserait.
Moi, ça faisait longtemps que je le suivais, alors je suis très content que tu l'aies montré au grand public. C'est un des politiciens. Je me dis, s'il y en avait juste un petit peu plus de même, là, on aurait quand même...
T'as raison.
Oui, ça nous donnerait un peu plus d'espoir. Je sais pas qu'il faut qu'il soit chef ou il va peut-être pas avoir les bonnes idées, mais dans sa façon de faire, s'il y en avait plus des comme lui, ça nous ferait du bien. Stéphane, à demain.
Je reprends ton expression, rafraîchissant. Oui, à demain.
Voilà, salut.